La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des femmes et des hommes qui bâtissent déjà le monde de demain, même en ce temps de crise sanitaire inédite. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Un show à l'américaine pour vanter la lingerie française. Etam défile ce soir. C'est devenu une tradition pour la marque française, le marché de la lingerie qui se porte mieux que prévu. Laurent Milchior, patron du groupe Etam, est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, la lingerie, ce sont aussi des sous-vêtements agréables à porter pour les femmes atteintes de cancer du sein. Ça s'appelle Bibi NBB et sa fondatrice nous dira tout dans quelques minutes.
Et on a également déniché pour vous la plus ancienne marque française de bas et de collants. Elle existe depuis 1926. Le Bourget, ce sera notre saga aux alentours de 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1 chaque jour. Un entrepreneur ou une entrepreneure vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu des baskets zéro déchet en raisin. Zeta, ça s'appelle comme ça, en route pour les trophées. Rendez-vous à 13h45 pour le pitch.
Et en fin d'émission, demain au travail, des personnes atteintes d'autisme qui travaillent dans des usines. L'entreprise Andros le fait. Nous passerons un coup de fil à son directeur général.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Alors vous en avez l'habitude, hein, la France bouge, ce sont toutes ces entreprises, petites et grandes, qui innovent et font tourner la France. Et malgré le confinement et la crise, eh bien le marché de la lingerie, allez on va le dire, se porte plutôt bien.
Eh oui, on va le voir avec vous. Bonjour Laurent Milchior.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le président co-gérant du groupe Etam. Le groupe Etam, alors c'est Etam que l'on connaît, mais c'est aussi Undies, Maison 1, 2, 3, la marque premium Livy, groupe 100% familial.
Et Isée aussi.
Et Isée, groupe 100% familial. Emmanuel le disait dans le sommaire, Etam propose son live show, comme on dit ce soir, hein, son défilé un peu à l'américaine, hein, à la manière de l'américain Victoria's Secret. Tout le monde va pouvoir y assister parce que ça va être diffusé à 21h sur le site internet. Depuis plus de 10 ans, votre défilé est devenu un rendez-vous incontournable. Plus que jamais, tenir ce rendez-vous, c'était capital cette année.
Je pense que si les conditions le permettaient, c'était important. En fait, c'est important en sortie de cette crise sanitaire, et les conditions financières des entreprises et les conditions économiques et sanitaires le permettaient, c'était important de pouvoir maintenir du marketing et de pouvoir faire parler des marques. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de transformation, de Covid, de transformation digitale, etc. La réalité, c'est celles qui restent, c'est les marques les plus fortes. Mmh. Et les marques les plus fortes, c'est celles qui communiquent et qui ont quelque chose de fondamental et d'authentique et de transparent à raconter à leurs clients et leurs clientes. En ce qui nous concerne. Et du coup, comme les conditions étaient réunies, on a décidé de faire ce show en extérieur, pour toutes les raisons qu'on peut bien imaginer aujourd'hui, avec un risque, pluie, pas de pluie, etc. Mais de le faire en extérieur, un peu comme Roland-Garros, finalement, c'est en extérieur, avec moins de monde que prévu, puisqu'on avait des gradins pour 950 personnes et on a 408 invités. On a travaillé avec la préfecture de Paris.
Un invité sur deux, en respectant les distances.
Placé en respectant les distances, chacun a son coussin qui est collé, etc. Donc, ce n'est pas les Fashion Week où les uns sont les uns sur les autres. Et c'est un show, vous le dites, à l'américaine. Je pense que c'est un show international avant tout. Et c'est un rendez-vous dans la Fashion Week parisienne qui est une des Fashion Week les plus importantes au monde.
Si vous avez absolument tenu à le tenir pendant cette période si spéciale, c'est parce que traditionnellement, ça dope vos ventes derrière. On parle tellement de vous et vous en êtes le meilleur exemple. On ne vous aurait pas invité aujourd'hui sans cette actualité. Ça dope vos ventes, un tel rendez-vous?
Non, ça dope pas. Non, je vais vous étonner. En fait, non, ça dope pas les. C'est pas un événement qui dope les ventes. En fait, je pense que c'est un travail de fond qui dope les ventes. C'est un travail de fond sur les marques. C'est un travail de fond de dialogue avec ses consommatrices et un travail de fond sur l'image. Donc, c'est un travail sur le dialogue consommatrice qui est très important et de faire rêver. Et c'est le mélange des deux dans la durée qui fonctionne. Si quelqu'un vous fait un show et vous dit est-ce que le lendemain c'était exceptionnel? Pas forcément. Par contre, le fait de nourrir la marque depuis 13 ans maintenant avec ce show qui évolue dans son format chaque année, et ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est dans des lieux incroyables, avec des surprises, avec du live.
Et, c'est qui la grande star de ce soir?
Vous avez Attic, le rappeur de la série Validé qui avait cartonné. On a Clara Luciani qui va ouvrir. Offenbach. On a Illusion. On a pas mal de très bons artistes.
Alors vous parlez d'un travail de fond sur les marques pour les consommatrices. Vous, c'est très important. Depuis le début, vous le dites régulièrement, la lingerie s'adapte au corps de la femme et c'est pas l'inverse. Pour vous, c'est important qu'on prenne la femme dans toute sa diversité, dans tous les corps. hein, qu'elle peut avoir. Ça, vous y tenez tout particulièrement. C'est ce qui fait aussi votre différence avec d'autres.
Alors, je pense qu'on a toujours été à l'écoute de nos consommatrices et c'est pour ça qu'on a plus de 100 ans et qu'on a toujours été une marque populaire au sens noble du terme, française et maintenant internationale. Et on a toujours écouté nos consommatrices. Et ça, c'est vraiment génération après génération. Mon père était toujours à l'écoute de ses consommatrices. Moi-même, j'essaie de l'être avec mes équipes.
Et aujourd'hui, elles vous disent quoi, les consommatrices, alors ?
Ben, elles disent aujourd'hui, je veux moins de push-up, je veux plus de triangle, je veux que le soutien gorge soit plus confortable, je veux toutes les formes de femmes, je ne veux pas que le stéréotype, mais je veux quand même rêver. Et je dis attention à tomber dans le... Du coup, on ne fait que de la normalité en termes de communication. Moi, je pense qu'il faut faire rêver. Donc, il faut des top modèles et il faut des filles normales. Et il faut un mélange de tout ça parce que finalement, on est dans quand même l'univers du rêve, la mode, cette industrie qui fait rêver. Et on a besoin, je pense, de s'extraire de son quotidien en ce moment aussi, tout particulièrement. Par ailleurs, il faut les écouter. Et l'exemple de Bibi and Bibi, c'est ça.
On en parlera effectivement d'ici quelques minutes. Ce qui est important, c'est que ça va beaucoup mieux que prévu chez vous. La dernière fois, on vous a entendu sur Europe 1, c'était la veille de pouvoir rouvrir. Vous disiez, je ne sais pas ce qui va se passer dans mes magasins. Finalement, les gens sont revenus ?
Ouais, globalement, ça se passe beaucoup mieux. Je pense que partout, ça se passe beaucoup mieux que les scénarios catastrophes qu'on avait pu écrire en regardant ce qui s'était passé en Chine, tout simplement, et le redémarrage extrêmement lent, en tout cas, post-confinement de Wuhan et des grandes villes de Shanghai.
Vous, ça a bien redémarré ?
Ça a bien redémarré. En fait, quand on dit ça a bien redémarré, c'est qu'on est un petit peu en dessous de l'année dernière. On est un peu en dessous l'année dernière, mais avec un poids du web qui a progressé. Par ailleurs, un certain nombre d'économies quand même qui ont été mises en place forcément avec cette incertitude. Et donc du coup, l'un dans l'autre, on arrive à peu près à s'en sortir. Maintenant, il faut rester extrêmement prudent. On voit la reprise de l'épidémie et donc un risque à venir sur les mois les plus importants.
Cette reprise de l'épidémie, vous voyez déjà que les gens viennent moins dans vos magasins, là depuis quelques jours, depuis qu'on en parle à nouveau beaucoup plus.
Alors oui et non, on faisait le point ce matin sur Marseille ce week-end. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à Marseille ce week-end ? En fait, Marseille a cartonné ce week-end. Donc ça a très bien fonctionné. Donc il y a une espèce de rébellion qui est en train de s'installer à Marseille. Moi, je pense qu'il faut qu'on respecte vraiment ces règles si on veut passer au travers d'une catastrophe sanitaire. Et on l'avait prévu très tôt puisqu'on avait déjà confiné notre siège avant le confinement officiel. Et je pense que nous, ce qu'on voit, c'est oui, on a en fait il y a 15-20% de trafic en moins dans tous les magasins. Mais les gens y vont pour un peu plus avec une volonté d'acheter.
C'est-à-dire quand ils y rentrent, ils achètent.
Voilà, on va moins se balader dans un magasin. À un moment donné, on doit porter un masque, on doit créer la distanciation. On a forcément une crainte pour une partie de la population.
On va continuer à parler de nos lingeries, de cette lingerie qui va bien. Laurent Milchior, co-gérant du groupe Etam, vous restez avec nous.
Europe 1. Et il est tout de suite 13h18 sur Europe 1.
À suivre de la jolie lingerie adaptée aux femmes qui ont un cancer du sein. Bibi and Bibi ensoleille la vie de toutes ces femmes.
Et on en parle dans un instant avec la fondatrice de cette marque, Caroline Lebeuvan.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, on parle aujourd'hui du marché de la lingerie avec notamment Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam, à l'occasion ce soir de ce grand show Etam qui aura lieu à 21h.
Et avec vous aussi Caroline Lebeuvan, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Bibi and Bibi. Le cancer du sein, c'est celui qui touche le plus la femme. Alors, où placer la féminité pendant et après le cancer du sein ? Vous avez créé Bibi and Bibi en 2013, de la lingerie conçue qu'avec des matières naturelles, aucun irritant, et tout est parti de votre propre histoire en 2007.
Oui, tout à fait. En 2007, j'ai eu un cancer du sein, j'avais 43 ans, et j'ai eu une ablation. Donc effectivement, premier problème, trouver un soutien-gorge qui peut accueillir une prothèse. Je dirais que ça c'était pas génial, mais ça n'a pas duré très longtemps pour moi parce que je me suis fait réopérer et reconstruire en pensant que tout serait plus facile. Or, il reste toujours des points sensibles au niveau des cicatrices, de la peau qui a été un peu malmenée lors des traitements. Et donc, quelques années après, je me suis dit, mais il faut absolument essayer de trouver une solution dans le confort.
Donc, notamment pour améliorer ce confort, je crois que vous utilisez du tulle imprégné d'aloe vera, ce qui permet que, notamment pour les parties les plus sensibles, ce soit agréable de porter à nouveau des sous-vêtements.
Oui, tout à fait. Et en plus, ça a la propriété, donc c'est un cosmétique qui permet d'apaiser aussi la peau lors de la radiothérapie.
Et c'est ça, vraiment, votre stratégie, focaliser sur de jolies pièces, mais basé sur le confort.
Exactement, oui.
Alors, vous, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Parce qu'en préparant l'émission, on l'a vu avec Emmanuel, il y a des marques de lingerie dédiées aux personnes qui ont eu un cancer du sein. Vous, votre spécificité, si j'ai bien tout compris, c'est la lingerie après la construction, après la reconstruction mammaire.
Oui et non. En fait, l'idée, le départ de l'entreprise est parti sur, effectivement, après la reconstruction du sein. Parce qu'il n'y avait pas de lingerie vraiment appropriée, qui, effectivement, là, ne demande pas le fait d'avoir une poche pour porter une prothèse, mais d'un confort particulier qui est complètement oublié. Donc, justement, ces matières très douces, s'appliquer à faire des coutures aussi, les plus fines possibles, et puis ajouter par exemple ce tulle à l'aloe vera qui apporte encore du confort.
Et ce qui est vraiment un service là très premium mais qui a un prix, c'est que vous proposez aussi des choses sur mesure, puisque dans ce genre de moment, on a vraiment besoin de quelque chose qui sied le plus possible à cet après-maladie.
Oui, alors c'est pas du 100% sur mesure, parce que moi j'ai pas d'atelier
c'est de
chez
la
moi.
Demi-mesure.
Mais voilà, un petit sur mesure. Effectivement, il y a un modèle où on peut adapter une armature plus souple et qui du fait ne blessera pas sous le sein.
On les trouve où vos modèles? Où peut-on vous? Quel est votre circuit de distribution?
Alors déjà, il y a le site BBNBB. Et ensuite, moi, mes canaux de distribution sont les orthopédistes, les pharmaciens et les boutiques aussi de produits spécialisés pour les personnes qui sont malades, qui sont en traitement de cancer.
Parce que autre point aussi très important, là on parle beaucoup de lingerie, mais c'est aussi très agréable d'avoir un joli maillot de bain pour pouvoir aller à la plage. Et c'est aussi toute une gamme que vous avez développée, parce que là aussi, il n'existait pas grand-chose de joli et de confortable pour pouvoir reprofiter des joies de la plage.
Voilà, et effectivement, moi, la première année, quand j'ai acheté mon maillot de bain, bon, je l'ai peut-être acheté un peu tard dans la saison, donc plus de choix. Dans ma taille, il en restait un, donc j'ai vraiment pas eu le choix. Je l'ai porté une fois, parce que vraiment, je me sentais pas bien du tout dedans. Et ceux-là, pour le coup, ils sont tous avec des poches. Bon, après, qui peut le plus, peut le moins, c'est pas parce qu'il a une poche. Si vous n'avez pas besoin de poche, vous trouverez quand même le confort et le réglage. J'essaie aussi toujours d'apporter des petites astuces dans mes modèles pour qu'ils puissent aller à un maximum de femmes.
D'ailleurs, vous avez fait breveter un cache-armature, c'est important de le préciser. Laurent Milchior, vous êtes le président co-gérant du groupe Etam, grand témoin du jour dans La France Bouge. Vous avez lancé Yes, la collection de lingerie post-mastectomie. Comment vous percevez BBNBB? Il y a peut-être des ponts à faire.
Je trouve que heureusement qu'il y a des marques comme ça qui l'ont fait avant nous, tout simplement, depuis une dizaine d'années. Et ensuite, c'est notre responsabilité. On voit d'abord que c'est un vrai métier d'industriel, hein, et quand on l'écoute, on voit qu'elle a pensé à tous les
détails.
Malheureusement, elle a vécu cette expérience.
Tout à fait.
Tous les détails qui rendent la vie plus simple et plus confortable
et
qui
jolie.
Rendent les femmes belles. Voilà, exactement. Et ça, c'est très important. Et en tant que leader français de la lingerie, on s'est dit qu'en fait, aujourd'hui, on ne pouvait plus passer à côté de pas trop de ce marché en termes de commerce, mais en tout cas de rendre disponible et accessible via nos magasins et notre site e-commerce une offre qui reprend nos modèles emblématiques, colorés, sympas, mais travaillés avec des femmes atteintes du cancer du sein, des médecins. Et on a mis au point cette gamme qu'on a lancée il y a quelques mois, qui s'appelle Yes, et qui a remporté en fait un très grand succès dans la trentaine de magasins dans lesquels il a été implanté. Donc on a choisi un réseau de magasins qui permet de couvrir à peu près tout le territoire français, mais c'est vendu également dans nos pays, donc c'est en Russie, en Espagne, etc., dans un certain nombre de magasins disponibles sur le web. Et on a formé l'intégralité de nos équipes avec une petite gamme, une de chaque taille dans les réserves.
Vous avez formé vos équipes, c'est-à-dire vos vendeuses dans un magasin Etam dans lequel on peut trouver ces produits. Elles ont eu une formation pour bien
tout à
pouvoir
fait.
Expliquer.
Mais même dans les magasins où elles n'ont pas l'offre complète, parce que c'est une offre qui tourne forcément moins vite qu'un produit normal, qui se vend moins vite qu'un produit normal. Et donc du coup, on a formé les autres magasins. Si une cliente qui a besoin de ce soutien-gorge vient et qu'elle a besoin d'aide, on sait la conseiller, on sait lui faire essayer un ou deux modèles qu'on a en réserve et lui commander en ligne le produit.
Et donc, pourquoi pas une collab avec BBNBB, ça pourrait être intéressant. Nous, on lance des choses comme ça, La France Bouge, et puis après...
Tout à fait imaginer, je pense qu'on est sur des niveaux de prix différents, mais je suis sûr qu'on a beaucoup à apprendre. Tout est doublé en coton, mais on n'a pas pensé à l'aloe vera.
Il y a peut-être des choses à faire, vous nous le direz, vous reviendrez pour nous le dire. Merci à vous. Merci à vous, Caroline Lebeuvent, fondatrice de BBNBB.
Et Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de cette lingerie française, de cette lingerie française qui tire son épingle du jeu dans la crise. Voilà, c'est mieux dit comme ça.
Allez, Europe 1, il est 13h27. Elle est restée une entreprise familiale pendant 70 ans.
Et oui, depuis 1926, cette marque incarne le savoir-faire français en matière de lingerie et de bas.
Alors le Bourget, c'est la saga du jour dans La France bouge, à tout de suite.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour avec Elisabeth, on est vraiment ravis d'être avec vous dans La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1. Aujourd'hui, notre grand témoin, Laurent Milchior, le président et co-gérant du groupe Etam. On parle donc de lingerie qui se porte plutôt bien malgré cette crise. Est-ce que ça a changé, cette crise, Laurent Milchior, notre façon d'acheter? Parce que vous aviez lancé, je crois que c'était en 2018, ce qu'on appelle le Try at Home. On va parler en français, c'est-à-dire on essaye à la maison. Est-ce que du coup, ce genre de choses, ce genre de solutions vont se renforcer avec la crise, parce que c'est pas facile avec les normes sanitaires d'essayer de la lingerie en magasin aujourd'hui?
Alors ça se développe sur le web, mais ça se développe beaucoup en magasin. Après, c'est toujours un travail de formation des équipes. Il faut que les équipes elles prennent ça à bras le corps et qu'elles développent. Mais une équipe qui joue bien le jeu, en fait, c'est un chiffre significatif qui est fait en try at home, puisque les cabines, effectivement, c'est compliqué d'assurer un maintien sanitaire. Mais c'est tous les modèles de paiement aussi. Le sans contact a complètement explosé avec le plafond à 50 €. On a même un système de pay by SMS, donc si vous voulez pas toucher un TPE, quelque part, on vous envoie le panier sur votre portable par SMS et vous n'avez plus qu'à saisir votre numéro de carte sur votre portable et vous payez comme ça. Et donc, c'est toutes ces méthodes, en fait, qui permettent de simplifier la vie en magasin et d'assurer, de rassurer les consommateurs, en fait, et de créer du trafic dans les points de vente le plus safe possible.
Donc, le plus safe possible dans les points de vente. Par effet de logique, le digital a énormément progressé pendant cette période et encore maintenant.
Le digital a énormément progressé pendant le confinement, montant jusqu'à 3 fois le chiffre d'affaires historique. Maintenant, on faisait un peu moins de 10%, donc c'est monté à beaucoup plus que ça. À la sortie du confinement, ça s'est un petit peu rationalisé quand même. Et aujourd'hui, on est tous sur des progressions à 2 chiffres.
Donc c'est là, très bien.
On a des belles progressions à 2 chiffres. Mais l'enjeu, il est vraiment de préserver son parc magasin et de faire 20-25% en ligne.
Alors, ce qui est aussi important du côté du groupe Etam, puisque depuis le début de cette émission, on parle d'Etam, mais vous avez aussi Undies, vous avez aussi la marque Livy, la plutôt haut de gamme. Vous êtes également dans le marché de la mode avec Maison 1, 2, 3. Ça, tout le monde ne sait pas que ça appartient au groupe Etam. Si on s'arrête peut-être sur la marque Livy, qui est plus haut de gamme que le groupe Etam, c'était important pour vous de monter justement en gamme? C'était indispensable pour le groupe Etam?
En fait, c'était indispensable de se diversifier. C'est-à-dire que l'enjeu de notre métier de la distribution, c'est de ne pas ouvrir trop de magasins. Et en France, on a 300 magasins qui ne font que de la lingerie. On en avait 300 il y a 10 ans. Et quand j'ai pris la direction il y a une dizaine d'années, en fait, je me suis dit, il n'en faut surtout pas plus pour ne pas se cannibaliser. Et donc, du coup, c'est ou de l'international ou de se positionner sur des créneaux différents. Donc, il y a Undies qui était en dessous et il y a Livy qui est plus haut de gamme. Mais c'est vrai que sur ce créneau du luxe abordable, finalement, il n'y a pas de marque retail de lingerie, de distributeur de lingerie sur ce créneau, comme il peut y avoir des Mages, des Sandro, des Bâches sur ce créneau en prêt-à-porter. Et c'est là qu'une de nos stylistes, donc c'est l'intrapreneuriat, puisque c'est la styliste d'Undies qui est venue avec ce projet et on lui a dit banco et on s'est associé pour monter cette marque il y a 4 ans.
Et c'était il y a à peine 4 ans. 4 ans après, là, elle va monter vous allez ouvrir un énorme magasin en plein Paris aussi, ouais. Avec c'est une espèce de lieu de vie que vous allez mettre en place.
Alors c'est un lieu de vie et c'est un atelier, puisqu'on va faire une lingerie made in Paris, puisque aujourd'hui le made in France revient à fond. Et là, on peut se le permettre en termes de prix, comme Livy, c'est important de pouvoir faire du made in France. Et on va le voir avec le Bourget, ça a été leur stratégie aussi. Sur Etam, c'est quasiment impossible pour offrir des produits à ce prix-là.
Mais chez Livy, non.
Mais chez Livy, un soulier-gorge coûte entre 90 et 120 euros. Donc on sait le fabriquer en France. Un soulier-gorge à 20-25 euros, c'est compliqué.
Quand vous dites le made in France revient, c'est-à-dire que vous avez l'impression que ça y est, si on fait du vrai made in France, à des prix qui restent quand même à peu près corrects, il y a un vrai plus à produire en France pour vendre derrière?
Alors, il y a un vrai plus parce que dans la mode, ça évite d'avoir des déchets et d'avoir des produits invendus. Et à un moment donné où on cherche à avoir une économie plus verte, les invendus, c'est un vrai problème. Donc, d'avoir un circuit plus court, ça permet d'éviter ces invendus. Ensuite, le consommateur, à prix équivalent, il préférera le made in France. C'est pour plein d'industries difficile de faire un prix équivalent en made in France. Et c'est là où c'est compliqué. Mais il y a une mode déjà marketing politiquement parlant, parce qu'on en parle, beaucoup, parce que les politiques ont insisté sur ce sujet-là. Et il y a une l'accélération des pré-Covid, des pré-confinements, on va dire, de tous ces phénomènes de d'écologie, de télétravail, de sortie des grosses villes, etc., qui s'est accéléré avec le avec cette crise sanitaire. Et donc du coup, ça fait partie des événements, des éléments effectivement importants du mix marchandises, je pense aujourd'hui.
Laurent Miquer, vous disiez tout à l'heure, pas question de fermer des magasins. Même si le digital marche bien, on continue sur ce rythme-là. Vous avez fait appel à l'État concernant la suspension du paiement des loyers des magasins fermés pendant la crise sanitaire. Donc une bataille avec les grandes foncières. Comment se sont passées les négociations ? Est-ce que vous avez payé les loyers des boutiques qui se trouvaient dans les gares ou dans les centres commerciaux fermés ?
Alors, on n'a pas demandé la suspension à l'État, on a demandé à l'État de réguler la discussion qu'on pourrait avoir avec nos bailleurs.
Vous vouliez ne pas les payer, malgré tout.
Et de ne pas les payer, en tout cas, ou quasiment pas, pendant cette période de fermeture. Il y a une médiation qui a eu lieu, qui a été signée par les petits, les TPE, puisque les TPE, on leur proposait 3 mois sans loyer. La réalité, c'est que nous, on n'a pas signé cette médiation qui ne nous convenait pas, parce qu'elle capait maximum 1,5 mois de gratuité, et on estimait qu'on avait plus. Donc aujourd'hui, on discute de gré à gré, comme ça a été proposé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et on obtient, dans un certain nombre de cas, pas du zéro, mais une grosse économie. Dans d'autres, on a la full économie, et certains restent mordicus, bloqués sur le fait qu'on paiera, et on ira au judiciaire.
Mais dans la grande majorité des cas, vous êtes plutôt rassuré, c'est en train de s'arranger.
On va dire que dans toutes les industries, toutes les parties prenantes ont été un petit peu plus raisonnables une fois qu'on avait un peu plus de visibilité sur, pas la sortie, mais en tout cas à quoi ressemble cette crise sanitaire économiquement. Et du coup, les gens censés, on arrive à trouver des accords. On a du mal avec les assureurs, malheureusement.
Laurent Miquer, vous connaissez évidemment Le Bourget, la marque Le Bourget. C'est une marque créée en 1926. Alors comment est né ce groupe qui incarne là aussi un savoir-faire français ? On en parle avec Thierry Simon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Le Bourget. En 1926, Jean-Pierre Saltiel, c'est ça, crée une entreprise avec 12 ouvriers, 12 à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne. Déjà à l'époque, cette entreprise est connue pour son savoir-faire en matière de tricotage. Donc tout démarre avec ce savoir-faire.
Oui, effectivement, l'histoire a démarré en 1925. D'abord, et après, le nom Le Bourget est arrivé très vite en 1926.
Ça s'appelait La Mondiale au début ?
Alors ça s'appelait La Mondiale, exactement. Et à l'époque, M. Saltiel venait toutes les semaines à Paris pour vendre sa production. Il prenait la Nationale 1 et il passait devant l'aéroport. Alors c'était l'aérodrome du Bourget, c'était l'effervescence de l'aviation. Il a déposé la marque Le Bourget et un an après, Lindbergh traversait l'Atlantique et atterrissait au Bourget. Le marketing n'existait pas, mais c'était un peu de la pensée prédictive qui préfigurait peut-être la saga d'une belle marque.
Bah oui, c'est super ça comme histoire. Et à l'époque, en revanche, vous avez commencé par les bars. C'est ça le début de l'histoire de Le Bourget.
Bien évidemment, on faisait à l'époque, la production était centrée sur les bars, puisque le fil de nylon est arrivé aux environs des années 50 par le fil des parachutes, des parachutistes américains. Et là, on a commencé à tricoter quelque chose d'un petit peu plus circulaire, d'assembler deux jambes et de faire ce fameux produit aujourd'hui qui est le collant.
Alors, c'est après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée des fils polyamides,
oui,
c'est ça, que Le Bourget s'est mis à fabriquer les collants. On est passé des bas aux collants.
Voilà, et d'avoir un produit qui ressemble à peu près à ce que l'on peut trouver aujourd'hui dans nos magasins et proposer aux consommatrices.
Qu'est-ce qui reste justement de cette idée du démarrage chez Le Bourget ?
Alors, nous sommes en plus basés dans les territoires, au cœur de l'Aisne. La Picardie est une grande région textile. Et donc, il y a aujourd'hui la vie d'un acteur économique, un savoir-faire, malgré tout. Les gens disent toujours, parfois certains, la Mondiale ou les bas Bourget, vous voyez. Donc, dans cette petite commune, il y a souvent aussi des générations qui ont travaillé de père en fils dans l'entreprise. Et il y a surtout une grande fierté de pouvoir aujourd'hui travailler pour un nom historique qui continue malgré toute l'évolution de la manufacture de textiles et surtout de la bonneterie qui a fortement souffert.
D'ailleurs, vous êtes labellisé Origine France Garantie. Chez vous, tout est fabriqué en France, tout.
Alors, nous sommes adossés à un groupe italien donc, qui est un industriel de la profession.
Depuis 99.
Et aujourd'hui, depuis 1999, exactement. Et dans ce groupe, il y a également une autre marque française célèbre qui s'appelle Well. Et il faut dire qu'aujourd'hui, sur notre cœur business, c'est-à-dire le collant, 100% de nos produits sont franco-italiens. Donc le Made in France et le Made in Italy, on est vraiment dans une production de proximité et de savoir-faire.
Laurent Miquelor, là on parle d'une entreprise familiale qui a été rachetée. Le groupe Etam, c'est 100% votre famille. Toujours pas question de
trois familles, trois familles fondatrices. Et d'ailleurs, en 1916, les petits-enfants du fondateur, les Lindemann, encore actionnaires de cette entreprise, en fait, c'était une entreprise d'indémaillable. En fait. Donc, en Allemagne, en 1916, on vendait des bas. Et Tam est né par les bas. Et puis ensuite, c'est transformé vers la bonneterie et la corsetterie.
Mais vous ne répondez pas à ma question. Toujours pas question de vente. Donc, ça restera dans la famille. Dans les familles.
Ça restera dans les familles, c'est une entreprise familiale et aujourd'hui l'entreprise n'est pas à vendre et on est là pour la développer.
Et on a vu qu'elle bouge bien en plus.
Voilà.
Merci en tout cas Thierry Simon, vous êtes le directeur général de Le Bourget. Laurent Miquelor, vous restez avec nous, vous êtes le co-gérant du groupe Etam, vous êtes notre grand témoin du jour dans la Fraise Bouge et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Bravo en tout cas
pour Europe 1.
Et il est 13h40 pour le moment.
Allez, direction les trophées Europe 1, un projet, un pitch, un moment fort de la France Bouge.
Et oui, parce que c'est une des promesses de votre émission aujourd'hui. Zeta, ce sont des baskets qui ne polluent pas, elles sont recyclables et véganes.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et c'est parti pour les trophées européens. Ils osent, ils se lancent, nous les avons choisis et surtout on les écoute avec vous tous chaque jour, pitchés devant l'œil attentif et toujours exigeant de notre patronne ou de notre patron du jour, en l'occurrence aujourd'hui Laurent Miquelor, le patron du groupe Etam.
Bonjour Laure Babin.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1 avec nous. Vous avez 23 ans et vous êtes la fondatrice de Zeta.
Oui.
Zeta, ce sont des baskets zéro déchet en raisin, vous allez nous expliquer hein, parce qu'on n'a pas tout compris, fabriquées à partir de matériaux recyclés. C'est tout frais puisque la marque est lancée depuis 15 jours. On va vous laisser parler, vous connaissez la règle. Vous avez une minute pour nous convaincre.
Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice de Zeta, qui est une marque de baskets zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et vegan. Chaque année, ce sont 100 milliards de paires de baskets qui sont vendues dans le monde. Et c'est vrai que la basket, c'est un produit qui reflète parfaitement les conséquences néfastes de la fast fashion. C'est produit à l'autre bout du monde à partir de matériaux très polluants comme le coton, le cuir ou encore le polyester. Et donc il y a un an, je me suis mise au défi de créer une paire de baskets uniquement à partir de matériaux en fin de vie. Donc le modèle Alpha est fabriqué à partir de cuir de raisin qui est obtenu à partir des déchets de la production vinicole, mais aussi de plastique repêché en Méditerranée, de liège recyclé et de chute de caoutchouc recyclé. Et puisqu'on ne voulait pas que cette paire de baskets soit un déchet supplémentaire pour la planète, on a décidé de les reprendre gratuitement à la fin de leur vie pour les transformer en combustible vert. Donc le message que j'essaie de transmettre à travers Zeta, c'est réutilisons ce qu'on possède déjà et arrêtons de surproduire.
Alors là, vous n'avez plus de temps. Nous, on est obligés de vous couper. Bravo en tout cas pour ce pitch.
Oui, bravo, c'était très bien. Hein. Donc, on voit un cercle totalement vertueux. Donc, ça fait du bien. Merci pour le pitch. Alors, chaque jour, votre dossier, le dossier de la personne qui a un pitché, est passé au crible d'une experte. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France, qui accompagne les créateurs d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie. Je vous propose d'écouter ce qu'elle en pense.
Alors, deux points positifs pour l'entreprise Zeta. D'abord, un excellent accueil du public sur la campagne de financement participatif Ulule, ce qui veut dire que vous avez un bon réseau qui va constituer un super socle pour créer votre communauté et qui contribuera à votre stratégie commerciale. Deuxième point, une très jolie innovation qui vous différencie des autres acteurs avec le recyclage des bouteilles en plastique repêchées. Parce que non seulement vous ne produisez pas de déchets, mais en plus, vous en supprimez. Un point amélioré toutefois, la communication. Votre but est d'éveiller une prise de conscience collective. Pour cela, vous devez toucher le plus grand nombre. Il y a d'abord les fans de sneakers qui risquent de passer à côté de la basket zéro déchet. Vous pourriez peut-être imaginer une communication beaucoup plus axée sur le design, l'originalité et mettre le zéro déchet en rang 2 en fait. Et puis, vous pourriez imaginer une offre autour du collectif justement pour éveiller les consciences avec des ateliers de fabrication d'une partie de la basket par exemple si c'est possible ou des ateliers de personnalisation écologique de vos baskets. À vous d'inventer pour que vous ne vendiez pas qu'une paire de baskets, mais une belle expérience qui aide à la prise de conscience collective.
Laure, vous répondez quoi, Nathalie ? C'est pertinent ce qu'elle vous a dit. Hein. Il y a les fans de sneakers, ils peuvent passer à côté de cette basket zéro déchet.
C'est la stratégie qu'on essaie de développer avec Zeta à l'heure actuelle. Et en fait, plus ou moins qu'on essaie de développer, puisqu'on a déjà eu beaucoup de messages de personnes, de fans de baskets de grandes marques, Nike ou Adidas pour ne pas les citer, qui nous ont dit « voilà, moi j'achète ces baskets-là et j'ai été séduit par le produit, donc en premier lieu par l'esthétisme et ensuite par le côté zéro déchet ». Et à ce moment-là, on s'est dit « bon, l'objectif il est atteint » et on a réussi à convaincre ces personnes-là. donc c'est génial.
Alors, je précise quand même le prix, parce que souvent, à chaque fois, nos pitchers oublient de dire combien leur produit coûte. Et je suis sûr que pas mal de personnes à la maison se disent « Alors, ça coûte combien ?» Eh bien, ça coûte 129 euros, 109 pour ceux qui veulent encore vous aider à vous financer en financement participatif sur Ulule. Ça s'arrête le 9 octobre. Laurent Milker, patron d'Etam, vous en pensez quoi ?
Là, je trouve que le principe est canon et le fait d'avoir trouvé des alternatives industrielles à chacune des problématiques de la basket et de la reprendre derrière pour la transformer en combustible vert, c'est une super bonne idée et le look est super bon et c'est vrai que
et si vous aviez un conseil à lui donner avec votre casquette d'entrepreneur qui a lancé quand même plusieurs marques en interne chez Etam, vous lui diriez allez c'est une bonne idée, ça on a compris.
La réalité, on voit que son financement elle a complètement explosé sur Ulule, donc le produit a été plébiscité, donc je pense que ça c'est la meilleure preuve et les meilleurs conseils. Après c'est toujours de créer une communauté, la communauté elle existe déjà et de faire un levier sur cette communauté pour la faire grossir le plus vite possible mais c'est un produit qui est vraiment chouette.
Et alors pourquoi ne pas envisager une collaboration avec des vignobles ? Pour mettre en avant le raisin.
Oui, absolument. On y pense justement. On essaie de voir ce qui est possible de faire au niveau de Bordeaux. Des ateliers, il y a plusieurs choses qui sont envisageables. Donc on y réfléchit. Pour l'instant, on se concentre sur la campagne. Et après, on va dans les prochains
mois.
Pas
que la campagne, parce que votre premier défi, ça va être aussi un défi industriel, si j'ose dire. Puisque vous êtes à plus de 1000 commandes. Vous êtes engagé à livrer ça à partir de décembre.
C'est ça.
Je ne vais pas vous faire peur, mais on est allé au mois d'octobre quasiment, on peut le dire. Ça y est, vous êtes prête, vous allez réussir à tout livrer.
Alors heureusement, ce n'est pas moi qui les fabrique, ce sera l'atelier portugais.
Bien sûr.
Mais du coup, on a prévu une réorganisation du plan de production, parce que c'est vrai que nous, on ne s'attendait absolument pas à un tel engouement. C'est génial. Mais on avait prévu 300 paires, pour tout vous dire, de précommander. Donc là, on est en train de tout réorganiser.
C'est exceptionnel.
Alors ils sont enchantés. Et c'est un travail qu'on a fait pendant un an. Donc c'est aussi le fruit
de tout votre travail. Et ben ça fait du bien d'entendre tout ça. Bravo à vous Laure Babin, fondatrice de Zeta, cette nouvelle marque de basket totalement recyclable à base de raisins.
Et si vous avez vous aussi un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien c'est très simple, vous pouvez nous envoyer votre candidature sur une adresse qui est toujours aussi simple, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats et candidates en route pour les trophées Europe.
Laurent Milker, co-gérant du groupe Etam, on est ensemble, on vous reste avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Eh oui, et il est quasiment 13h50 sur Europe 1.
Dans un instant, demain au travail, on va appeler Andros Confiserie, qui accueille des personnes atteintes d'autisme dans leurs usines.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Ah, ça va chaque jour trop vite et il faudrait un jour qu'on filme également les publicités parce qu'il s'en passe beaucoup de choses dans ce studio pendant ces publicités.
Faut pas tout raconter quand même, Emmanuel.
Faut pas tout raconter, vous avez vu que j'ai juste créé une forme de suspense, Elisabeth. Allez, demain au travail, on est toujours pour le moment avec Laurent Milker, le patron du groupe Etam.
Et avec vous, Benjamin White, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Andros Confiserie, vous dirigez la filière confiserie donc, de chez Andros. Et vous, tout part de l'histoire de l'ancien PDG d'Andros, qui a un fils qui présente des troubles autistiques. Et il pressent que pour lui, la meilleure des choses pour pouvoir l'insérer dans l'entreprise, qu'il ait un métier, qu'il ait une forme d'indépendance, c'est de travailler dans une usine. C'est ça qui pourrait le mieux lui convenir. Et donc, en 2015, il a créé une association, VETA, pour permettre à son fils autiste de travailler.
C'est exactement ça. C'est vrai qu'au départ de projets ambitieux comme celui-là, très souvent, il y a une personne, une idée, une conviction. Dans notre cas, il s'agit de Jean-François Dufresne, dont le fils a été diagnostiqué autiste et qui avait vraiment la conviction que les structures d'accueil vraiment spécialisées et donc la dépendance, on pouvait trouver une autre solution pour son fils. Et lui, sa conviction, c'était que c'était par le travail en milieu ordinaire qu'on allait pouvoir offrir à ces personnes-là effectivement une vraie vie, aussi bien via le travail que via le lieu d'adaptation et même les loisirs.
Et maintenant, vous avez, je crois, 4 personnes avec des troubles autistiques dans votre filiale, qui est composée, je crois, de 250 salariés.
Exactement. Alors, pour l'instant, on est à 4. On a démarré ça il y a un peu plus d'un an maintenant. On a accueilli notre premier salarié avec Anthony. Et on a un objectif de monter jusqu'à 10 salariés, effectivement, sur un total d'environ 250, qui est relativement ambitieux.
Alors, vous avez un tout petit retour pour le moment, mais pardonnez-moi peut-être cette question qui paraît naïve. Ça se passe bien ?
Ah, ça se passe incroyablement bien et je dirais de manière très naturelle. C'est vrai que nous avons été en ça très bien accompagnés par l'association fondée par Jean-François Dufresne, donc Vivre et Travailler Autrement. Là, vous parliez juste avant des baskets Zeta, dans notre cas c'est Veta, Vivre et Travailler Autrement.
Veta, ouais.
Voilà, qui nous ont accompagnés vraiment dès le démarrage du projet et du coup ça a facilité grandement les étapes d'intégration puisqu'en 8 mois à peine, nous avons accueilli notre premier salarié.
Et le dernier arrivé, c'est Arthur, hein, en septembre 2020. Il fait quoi, Arthur? Arthur, dans l'usine.
Et ben Arthur, il est en phase d'immersion. Là. Pour l'instant, il est en train de tester ses aptitudes sur différents postes, puisque ce qui est spécifique sur ce projet-là, c'est qu'en fait, on intègre les autistes directement sur des postes ordinaires de l'entreprise.
Comme quel poste, par exemple?
Et ben nous, par exemple, on avait des gens qui sont en sortie de ligne de gélifier. On a des postes aussi de sortie de ligne de conditionnement, des postes de lavage de bac. C'est vrai, c'est très varié et en fait, c'est évolutif en fonction de leur adaptation au poste. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils nous démontrent de telles capacités, de telles aptitudes, une fois qu'ils sont bien accompagnés et encadrés, que finalement, on se rend compte que ce qu'on avait imaginé au départ, ils peuvent aller beaucoup plus loin que ça.
Eh bien, merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Benjamin White, le directeur général de la branche confiserie d'Andros, ouais. Laurent Milchior, patron du groupe Etam, a intégrer la différence, c'est toujours compliqué en entreprise. Comment ça se passe chez vous?
Non, c'est nécessaire. Donc, on a un programme handicap. On intègre également des jeunes de quartiers plus difficiles via des associations où on coach des futurs entrepreneurs, où on accueille. On est en train de monter un programme aujourd'hui sur ces quartiers difficiles pour les intégrer d'abord sur le métier de la vente, pour ensuite leur donner la possibilité de devenir responsable de magasin et de monter dans la hiérarchie. Donc, chacun y va avec sa façon de. Le type de population, on va dire, qu'on a dans nos entreprises et cette intégration, c'est vrai qu'on n'a pas de programme sur l'autisme aujourd'hui.
Voilà, c'est vrai que c'est une initiative très particulière et on l'a bien vu, hein, elle est née d'une expérience personnelle, mais c'est très riche. Parmi les sujets également d'actualité, il y a tout ce qui concerne le développement durable. Toutes les marques sont appelées à leur responsabilité aussi là-dessus. Et je crois que vous, du côté du groupe Etam, vous voulez prendre là de gros engagements pour au moins assurer une traçabilité meilleure du produit.
Alors, on a lancé un programme, c'est le We Care, donc c'est-à-dire que je fais attention à l'autre. Et donc, on s'est engagé à ce que 80% de notre offre soit éco-conçue à 2025. On espère plus, mais au moins 80%. Et on a lancé ce programme il y a 18 mois. On est déjà à 25% sur cette saison hiver 2020.
Sur quel type de produit?
Et par exemple, les soutiens-gorge basiques s'appellent Chéri Chéri. La dentelle est à base de polyester recyclé. L'intégralité de nos dentelles de produits qui se vendent en millions de pièces. On vend beaucoup de pyjamas en polaire à Noël, qui sont des grosses ventes en millions de pièces aussi. Dès cette année, l'intégralité de nos polaires, que ce soit chez Etam ou chez Undies, seront à base de polyester recyclé. Et donc, on progresse comme ça assez rapidement. Et on trouve des moyens dans la chaîne d'approvisionnement pour arriver à assurer le même prix pour nos consommateurs.
Eh bien, merci beaucoup à Laurent Milchior, le patron du groupe Etam, d'avoir été notre invité. C'est déjà la fin de votre émission.
Déjà. Eh bien, on se retrouve demain, 13h, pour une nouvelle France Bouge. On parlera de quoi, Emmanuel?
Eh bien, demain, on va parler création d'entreprises et de personnes souvent qui sont en reconversion, puisqu'on sera avec Guillaume Pépi, qui est le nouveau patron d'Initiative France. Il faut imaginer qu'il crée des centaines, des milliers d'entreprises chaque année et qu'il crée comme ça aussi des milliers de postes en France.
Eh bien, demain, 13h, dans un instant, le Flash Info, suivi de Christophe Ondelat.